Question d'islam par Ghalib Bentchir. Aujourd'hui, nous parlons de liberté d'expression, de laïcité, de valeurs républicaines, vues, discutées par un imam, ministre du culte dans la religion islamique, ce que j'appellerais le jurisconsulte religieux républicain, qu'est Abdelali Mamoun. Abdelali Mamoun, bonjour.
Bonjour Ghalib, je suis ravi d'être avec toi.
Ah, merci, merci infiniment de nous faire l'amitié de venir nous parler à la fois de ce que vous faites, de vos idées, et pour dire les choses simplement, et je le dis à nos amis auditeurs, je vous ai entendu dire que je voudrais être le taille-crayon qui permet de tailler le crayon du dessinateur de Charlie Hebdo pour continuer à dessiner, même s'il s'agit de caricatures du prophète, parce que pour vous, Abdelali Mamoun, la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté tout court, relève du non négociable.
Non seulement il est non négociable, mais il est considéré comme un des principes sacrés qui a été apporté dans le contenu de la révélation faite à notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et non pas la personne même du prophète.
Là, ce que vous aviez dit, c'est ce qu'on appelle une eulogie, c'est-à-dire une belle parole dite après, lorsque les imams ou d'autres prononcent le nom du prophète ou de certaines grandes
paix
figures.
Paix et salut de Dieu sur lui.
Voilà, ajoute ça, je l'explique uniquement pour les auditeurs et c'est très bien.
Oui, le taille-crayon qui donne à chacun la liberté de s'exprimer, d'écrire, de pouvoir dire ce qu'il a envie de dire, même si sa démarche est motivée par des mauvaises intentions, il doit pouvoir avoir le droit de le faire et de pouvoir l'écrire ou le dessiner ou de faire ce qu'il a envie de faire.
Ou l'exprimer.
Même si cela nous déplaît, même si cela ne nous convient pas. Parce que ce que nous disons, nous aussi musulmans, peut déplaire à beaucoup de gens. Et la réciprocité est, bien sûr, doit être comprise par ces musulmans qui, quand ils prononcent, par exemple, l'Aden, ou quand ils disent Allahu Akbar, Dieu est grand, ou il n'y a de Dieu que Dieu, peut-être que ça aussi, ces formules-là, peuvent déplaire à d'autres personnes qui sentent à travers ces mots et ces déclarations une forme de prosélytisme conquérante, provocatrice, et malgré tout, ils s'abstiennent de s'opposer à notre liberté de conscience, de pouvoir s'exprimer, de dire ce que nous pensons au fond de notre cœur. Et à partir de là, c'est justement cette liberté garantie par la République qui doit être le sacré et ce qui doit chapeauter les rapports entre les différentes convictions et non pas simplement confessions.
Donc les réactions excessive, violente, vouloir museler son contradicteur ou son interlocuteur même sur des aspects avec lesquels on n'est pas d'accord, relève d'un non-sens total.
D'une lâcheté, d'un comportement totalement impuissant. Quand on n'est pas capable d'argumenter, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on en vient aux mains, on en vient à la force, on en vient à l'utiliser la violence pour justement convaincre. C'est le diktat, c'est la tyrannie purement et simplement. Et est-ce que vous croyez bien que l'islam est venu comme étant une tyrannie qui impose ses convictions aux autres? Alors que de multitudes de versets du Coran et de termes coraniques, même prophétiques, vont dans le sens justement de laisser à chacun la liberté de conscience, non contrainte en religion. Tu n'es pas un dominateur, dira Dieu à son prophète, innama anta mudhakkir, tu n'es qu'un rappel, lasta alayhim bimusaytir, et en aucun cas un dominateur.
Tu n'es pas un despote.
Un despote, voilà, exactement. Dans un autre verset, il va même le réprimander en lui disant, afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin, est-ce que c'est toi qui vas contraindre les gens afin qu'ils deviennent croyants, hein, innaka la tahdi man ahbab, tu ne guideras pas qui tu aimes, etc. etc. La multitude de versets montre bien que la mission du prophète n'est pas de contraindre, mais d'informer. Wa ma alayna illa al-balaghu al-mubin. Nous n'avons de devoir que de transmettre de manière évidente.
Oui, alors, on a toute l'émission pour revenir sur tel ou tel aspect, parce que On pourra vous rétorquer, oui, mais il y a d'autres passages qui, extraits hors contexte, ont été la justification pour ces fous furieux d'agir avec violence afin de museler leurs contradicteurs, et qu'on peut aussi trouver dans le Coran. Comment, selon vous, Abdallah Ali Mamoun, sommes-nous arrivés à cette situation de régression, de décrépitude? Au lieu de suivre cet enseignement, on a laissé place à la fureur, à l'hystérie, à des réactions qui ont amené jusqu'à l'assassinat et le meurtre quiconque n'est pas d'accord avec le point de vue du musulman lambda.
Je pense qu'à l'origine de tout cela, c'est un excès d'orgueil de beaucoup de nos co-religionnaires qui pensent que nous sommes non seulement dans la vérité, mais que toutes les autres convictions qui ne sont pas la leur est considérée comme étant une infamie et même source du mal que l'on doit combattre, que l'on doit condamner, que l'on doit utiliser, même s'il le faut, la force pour débarrasser l'humanité. Nous sommes, d'une certaine manière, s'ils croient, les bienfaiteurs de l'humanité, puisque nous débarrassons l'humanité de son mal, de tout ce qui est le faux, de tout ce qui est mauvais, et de tout ce qui est satanique et démoniaque. Donc, pour eux, ils pensent faire le bien. Donc c'est une nouvelle forme de délinquance incurable, puisque quand aujourd'hui nous avions pendant un certain temps dans les années 60 dans nos banlieues pas mal ou dans les années 70 pas mal de jeunes qui faisaient l'objet de condamnations pour exaction, etc., et qui remplissaient, faut le dire, il faut être honnête, nos centres pénitentiaires en France, eh bien c'était des gens que l'on pouvait corriger, que l'on pouvait rappeler à l'ordre, parce que leur motivation était purement cupide et basée sur la recherche du bien. Et quand on a un braqueur et il venait cambrioler quelque chose, ou une banque ou autre chose, il le faisait motivé par la cupidité, par la l'avidité. Alors que ces gens-là, aujourd'hui, ils vont faire les mêmes actes, mais on va leur dire maintenant, faites-le pour Dieu.
C'est-à-dire qu'on passe de délinquant à militant pour une cause, que l'œuvre, le travail lui-même reste dans un comportement de violence et de délinquance, sauf qu'on a changé d'optique et qu'on essaye de l'enrober ou de l'habiller pour une cause qui, à leurs yeux, justifierait ce comportement.
Tout à fait, c'est exactement cela. Et comme je disais tout à l'heure, l'origine, c'est sur le sentiment profond d'avoir l'exclusivité de détenir le bien, et que tous les autres sont forcément source du mal. Alors que là, je voudrais, c'est là où est-ce qu'il faut travailler. Est-ce que vraiment cette conviction que vous avez de détenir le bien est-elle vraie? Quand nous constatons que même quand le prophète envoyait une expédition vers une tribu qui menaçait les musulmans parce qu'il avait des espions un peu partout et que des gens menaçaient donc l'intégrité physique de la communauté des croyants fondée à Médine par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, eh bien, il leur disait, attention, ne tuez pas les femmes, ne tuez pas les enfants. Il leur dictait tout un ensemble de règles de ce qu'on appelle les lois martiales
que l'on retrouve.
Mais il y en a une d'entre elles qui est très forte, c'est qu'il disait, ne vous attaquez pas à un prêtre dans son monastère. Et là, un compagnon lui a même posé la question, mais pourquoi il est mécréant? Il est quand même dans l'égarement. Il a dit, non, celui-ci est en adoration, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille, car il est en adoration. Et que la finalité, la visée même de ce pourquoi j'ai été révélé, c'est ce qu'il est en train d'accomplir, cet homme, en s'abstenant de nuire et de faire du mal aux autres, voire même de faire du bien, puisque forcément, dans sa démarche d'engagement spirituel, il est aussi dans un engagement social où est-ce qu'il fait du bien autour de lui. Donc, si on aboutit à réaliser des hommes comme ces moines dans ces monastères, eh bien, on aura accompli et réalisé notre mission. Donc, pourquoi aller le combattre? Donc, ce qu'il faut combattre, ce sont ces gens qui sont injustes parce qu'ils sont dans une démarche de vouloir nuire. Fala udwana illa ala adh-dhalimin. Ils sont dans une démarche injuste de vouloir nous empêcher de croire et de continuer.
Donc, l'assassinat du père Hamel est un non-sens total.
Exact.
Mais théologique, spirituel.
Abject, il n'y a pas de vocabulaire qui me vient à l'esprit qui pourrait exprimer le caractère exécrable de cet acte ignoble qui est totalement même incompatible avec même le droit musulman en matière de loi martiale, c'est-à-dire que ce qu'on appelle en arabe fiqh al-jihad. Oui. Il y a des chapitres dans le droit qui sont clairs là-dessus. Il est strictement interdit à un, et ça s'appellera un crime de guerre, un crime contre l'humanité, que de transgresser cette règle, et ça sera donc une transgression envers les préceptes même de l'islam, et cet homme-là méritera le châtiment de Dieu. Ne serait-ce qu'un homme à l'époque du prophète qui va rendre les armes, il va jeter ses armes, il va lever les mains au ciel, hein, pour dire je me... Et là, malgré tout, le compagnon, alors il y a divergence, est-ce que c'est Oussama ibn Zayd ou est-ce que c'est Khalid ibn Walid, va malgré tout l'achever. Alors qu'il aura jeté les armes. Il dit « Khlas, je me rends, je me fais prisonnier ». Et là, cet acte dans lequel le compagnon va achever cet homme-là, eh bien, il va être, le prophète va en être informé. Il va lever le doigt au ciel en disant « Allahumma inni abra'u ilayka mimma fa'ala Khalid » ou « mimma fa'ala Usama » ala hasab riwaya. Je m'innocente de ce que a commis mon compagnon qui a tué un homme alors qu'il rendait les armes. Et cela montre bien combien l'islam n'est pas là pour tuer, pour assassiner, pour priver les gens de leur vie, mais au contraire, de leur imposer ce syncrétisme qui consiste à concilier les valeurs et d'imposer les valeurs de rapport humain, les valeurs morales, les valeurs universelles dans la société du rapport des hommes les uns aux autres. Oui, on peut imposer cela. Et c'est ce que fait aujourd'hui le gardien de la paix, c'est ce que fait le casque bleu, c'est ce que fait le militaire du rang. Ce sont pour moi les vrais moujahidines. Ce sont eux les moujahidines. Pas celui qui prend son sac à dos, qui prend un billet vers Istanbul pour aller rejoindre je ne sais quelle organisation anarchique.
À supposer qu'il faille donner des appellations puisées dans le vocabulaire religieux tel que djihad, etc., avec la collusion de la violence et du sacré, etc. Je voulais dire, Abdelali Mamoun, que vous êtes imam, vous avez une formation, dans votre formation vous avez des connaissances théologiques, mais ce qui prime, et c'est la formation principale, c'est le droit religieux, et vous êtes de ce fait un jurisconsulte, et quand on vient vous consulter, vous donnez des avis, ce qu'on appelle les fatwas, et vous aurez peut-être à nous donner quelques exemples durant toute l'émission. Il y a un autre aspect, en préparant cette émission ensemble, vous m'avez dit, si le prophète vivait de nos jours, il aurait été laïque et un fervent défenseur de la laïcité. Voilà quelque chose qui dénote avec une compréhension plutôt archaïque et obscurantiste d'un certain nombre de musulmans et à leur tête certains imams ignares. Alors comment justifiez-vous votre parole, que je comprends, qui fait que le prophète, s'il devait vivre avec nous, il aurait été un fervent défenseur de la laïcité?
Tout simplement parce que je pense qu'avant même de parler de Mohammed, on veut parler d'abord de Dieu. Est-ce que Dieu est un Dieu de laïque? Eh bien, quand on lit le verset 62 de Sourate al-Baqarah, où Dieu nous parle du rapport qu'il a avec les croyants.
La sourate 2 qui s'appelle la sourate de la vache.
Voilà. Où Dieu dit, et je vais la traduire très rapidement, dit certes, les croyants musulmans, chrétiens, juifs, sabéens, inna alladhina amanu walladhina hadu wan-nasara was-sabiin, donc je reprends le terme en arabe, man amana billah, qui ont cru en Dieu, wal yawmil akhir, au jour du jugement dernier, donc qui savent qu'ils auront des comptes à rendre de ce qu'ils auront accompli comme bonnes ou mauvaises actions sur terre, wa amila salihan, auront accompli de nobles actions, falahum ajruhum, auront leur récompense, pas simplement sur terre mais dans l'au-delà, il parle, inda rabbihim, auprès de leur Seigneur, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, ils n'auront aucune crainte, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, et ils ne seront en aucun cas affligés. Voilà la preuve flagrante que Dieu lui-même a un rapport avec tous les croyants de manière extrêmement laïque.
Mais là, l'énumération concerne les croyants, les musulmans, juifs, chrétiens, sabéens. Il se trouve que nous vivons dans des sociétés sécularisées dans lesquelles il y a des chercheurs de Dieu, des agnostiques, des personnes athées, et ceux-là aussi sont concernés par cette idée de que toutes ces personnes doivent vivre en bonne intelligence, n'ayant que le droit et le droit positif pour réguler, régler éventuellement leurs différends.
Je pense, moi, profondément sur ma istiqra, qu'on appelle ma lecture globale du texte religieux ou de nos références scripturaires, que l'islam est une religion qui impose une gouvernance et une administration laïque et sécularisée. Et ce sont les individus qui sont appelés à être des croyants, quelle que soit leur conviction, à partir du moment où ils se considèrent membres de la communauté d'un des prophètes, eh bien, Dieu clairement le dit et il établit qu'ils auront malgré tout le salut de Dieu le jour de la résurrection et ils seront, ressuscités avec leur prophète de référence qui intercédera en leur faveur. Et puis, bien sûr, ce qui intercédera d'abord en leur faveur, ce sont leurs actes, puisque ce sont d'abord les actes qui seront jugés, qui feront l'objet d'une analyse et d'un examen, et non pas la manière de ce comment on conçoit le rapport avec Dieu. De toute façon, Dieu n'a nullement besoin de telle ou telle manière. Je pense que cette question-là relève de l'intime, de chacun, comment il conçoit son rapport qu'il a avec Dieu. Et c'est ça que Dieu va juger intimement et personnellement avec la personne concernée sur le rapport qu'il avait avec Dieu. S'il considère que prier Marie, bah, c'est prier Dieu, prier Jésus, si c'est prier Dieu, et il considère que cela est tolérable ou acceptable, eh bien, c'est lui qui en jugera de la sorte, comme le dit lui-même, il est le seul à trancher le jour du jugement dernier, dans le verset 48 de sourate 5, la sourate 5.
Récitez-nous le verset 48 de la sourate 5, alors, et si vous voulez bien nous donner une sorte de commentaire de ce passage.
Alors, nous avons fait descendre sur toi le livre avec la vérité, afin de confirmer. Regardez, vous avez déjà cette notion que le rôle de ce livre que nous avons reçu, qui est le Coran, qui est postérieur aux autres livres révélés aux prophètes qui l'ont précédé, Musaddiqan, qui vient confirmer, authentifier de ce qui a été révélé avant lui. Donc c'est bien là une reconnaissance de Dieu, tout simplement, et l'obligation du croyant d'adhérer à l'ensemble des livres que Dieu a révélés à tous ses prophètes. Donc il n'y a pas de... Il dit, certes, « wa muhaiminan alayh » est prédominant dans le sens où il vient parachever. Je rappelle que même le prophète, en toute humilité, se compare dans une parabole d'un hadith, d'une citation prophétique, où il dit « L'exemple que je suis avec celui des prophètes et celui des prophètes avant moi est comme quelqu'un qui, un maçon qui construit une maison » et qui l'embellit, qui l'enjolive, etc. Et à la fin, les hommes tournent autour de cette maison, ils trouvent la maison magnifique et ne font que des éloges sur la construction de cette belle maison, à part un endroit où est-ce qu'il manque une brique. Et les gens ont dit, mais c'est dommage, il manque cette brique. Si cette brique avait été mise à cet endroit-là, eh bien, cette maison aurait été parfaite. Et il dit, le prophète, je suis cette brique. Donc, le prophète ne se considère lui-même qu'une brique parmi des dizaines et des centaines de briques qui parachèvent le message de Dieu à l'humanité.
Qui est, selon l'exemple, un édifice de l'ensemble des prophètes, et il est le dernier.
Tout à fait. Mais je vais continuer à lire le verset. Il dit donc, juge en... entre eux, sur ce qui t'a été révélé, voilà tête ta biawa, et ne suis pas leur passion, sur ce qui t'a été envoyé comme vérité. À chacun d'entre vous, il parle bien sûr à tous les hommes, y compris les non-musulmans et les musulmans, avons accordé, à chacun d'entre vous, nous avons accordé un cheminement spirituel et une méthodologie du rapport qu'il doit avoir avec les gens. Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté. Donc ça montre bien que c'est déjà la volonté de Dieu qu'il y ait plusieurs communautés, plusieurs manières de se rapprocher de lui, plusieurs cheminements spirituels, et que l'exclusivité, la diversité spirituelle existe déjà même dans le
plan divin.
Le plan divin, tout à fait. Donc, et moi je veux transgresser ce plan divin et m'accorder l'exclusivité en disant non, il n'y a pas d'autre chemin que celle qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son Coran qui l'a révélé. Mais c'est complètement absurde, puisque Dieu lui-même, il dit malgré tout que s'il y a des divergences entre vous sur ces convictions que vous avez, sur ce rapport que vous avez avec moi, c'est moi Dieu, le jour du jugement dernier, qui tranchera. Ilayya marji'ukum jami'an, vers moi vous reviendrez tous, fayunabbi'ukum, il vous informera sur en quoi vous étiez divergents. Mais il dit avant cela, il veut nous éprouver sur ce qu'il nous a apporté et donné comme don, qui s'appelle la lumière de la révélation. Qu'est-ce qu'il nous a transmis? C'est ce don des révélations faites à ses prophètes. Il dit ensuite, eh bien donc, puisque je vous ai donné ce don-là, cette lumière, eh bien, ayez cette rivalité, cette concurrence à accomplir le bien.
Cette émulation
vers...
En réalité, Abdallah Ali Mamoun, pour certains commentateurs, c'est que ce don qui est à la fois un don et une épreuve, c'est la diversité elle-même. C'est parce qu'elle peut être une source de bonheur incommensurable puisqu'on s'enrichit de la part de mystères que recèle tout un chacun. Mais elle est aussi une épreuve parce que si nous ne comprenons pas cette diversité comme stimulante, enrichissante et qu'elle laisse place à l'émulation, elle laisse place plutôt à la crimonie, à l'animosité, voire à la violence et au meurtre.
Et à l'immobilisme surtout, à la stagnation qui n'apporte rien, qui ne permet pas à chacun de progresser et de mettre le maximum de l'apport qu'il peut apporter à la société dans laquelle il vit et laisser une empreinte positive derrière lui pour les générations qui le suivront. Et c'est ça le devoir pour moi du croyant, c'est d'être dans cette concurrence, dans cette émulation vers le bien avec les autres croyants de sa propre communauté ou des autres communautés religieuses, chrétiennes, juives, etc. Et voyons chacun qu'est-ce qu'il est capable de faire. Si nous étions dans cette logique-là, eh bien nous, musulmans, nous n'aurions plus tout cet antagonisme, cette relation crispée entre le monde musulman et le monde occidental, oui, comme nous le vivons aujourd'hui.
Et puisqu'il est croyant, il pense qu'il y a un au-delà annoncé comme meilleur et durable et qu'il rejoindra le Seigneur. C'est là où s'il y a des divergences d'ordre, de quelque ordre que ce soit, il les diffère à ce moment-là. Il n'y a aucune raison pour qu'il s'y appesantisse dès ici-bas. L'important dans ce monde-ci, c'est d'œuvrer pour le bien.
Tout à fait. Du rapport qu'on a avec Dieu ne relève que du rapport de l'intime. Et l'intime ne doit pas faire l'objet de contraintes, parce que même si l'on veut mettre, si on souhaitait le couteau sous la gorge ou le pistolet sur la tempe pour faire dire quelque chose, pour faire quelque chose, on pourrait le faire. Mais faire croire, c'est impossible. On ne peut pas imposer à croire à quelqu'un. Donc même en pratique, c'est pas possible. Même si l'on voulait, on ne pourrait pas le faire.
C'est une adhésion intime.
On doit adhérer. C'est la notion même de, quand nous parlons de le mot islam, on parle d'adhésion, on parle d'engagement de soi, on parle d'abandon de soi pour Dieu. Et pour moi, finalement, même les chrétiens sont dans sa définition étymologique des gens de l'islam, c'est-à-dire qui s'abandonnent à Dieu et qui s'engagent à répondre à l'injonction divine de concourir et de rivaliser dans le bien dans ce bas monde.
Vous avez bien raison de dire dans le sens étymologique, c'est pour ça que Marie est présentée comme une musulmane ou les apôtres sont des musulmans. Voilà, s'il ne s'agit pas de dire que les juifs et les chrétiens ou d'autres n'ont rien compris, qui sont des musulmans qui s'ignorent, c'est simplement l'étymologie du mot, c'est le fait de se remettre à Dieu et c'est une explication étymologique du terme lui-même.
France Culture, Question d'Islam, Khaled Bencher.
Nous sommes en présence de l'imam Abdelali Mamoun, l'imam républicain, qui affirme le primat de la liberté de conscience, de la liberté d'expression sur toute autre considération, et surtout l'attachement à la laïcité comme un bien, comme un acquis de la modernité, et c'est ce qui permet la vie de l'ensemble des êtres humains, par-delà leurs croyances, s'il s'agit de la France au sein de la société française.
La visée de la foi, et pas aussi la visée de la loi, mais la visée de la foi. Puisque la visée de la foi, c'est d'apprendre à harmoniser, par cette harmonisation que l'on a, du rapport avec Dieu que l'on a, eh bien d'harmoniser ses rapports avec son prochain.
Ça n'a aucun sens de se prétendre adorateur de Dieu aux croyants si le voisin, le prochain, le concitoyen, le compatriote, le semblable, l'être humain qu'on a en face de soi, est ratatiné dans son être ou aliéné dans sa dignité.
Tout à fait. Tout à fait, là, c'est exactement. Il faut accepter cette notion d'égalité, du rapport que l'on a, et de même, je dirais même, d'humilité, de devoir du croyant, c'est d'être dans cette modestie et dans cette constamment sentiment de jamais d'être dans l'autosatisfaction de soi-même, mais au contraire, dans le sentiment de négligence pour permettre justement toujours une marge de progression, d'évolution, de faire mieux. Parce qu'effectivement, l'orgueil est le pire des vices. C'est celle qui motive toutes formes de violence et d'égarement.
Ce n'est pas pour rien que ça faisait partie, ou ça fait partie des sept péchés capitaux. J'ai cru comprendre que le pape Benoît XVI en a enlevé un des sept péchés capitaux, c'est celui de la gourmandise. Il en reste tout de même six, si mon information est juste. Abdelali Mamoun. Comme imam, jurisconsulte religieux, vous apaisez les consciences apeurées, culpabilisées de ceux qui, et de celles aussi, qui pensent qu'on a affaire à un dieu tortionnaire et avec cette obsession de la norme religieuse qu'il faut appliquer les rites ou les directives au pied de la lettre. Et les directives ou les instructions sont dictées aussi par des hommes.
Le rapport de l'homme avec Dieu est d'abord spirituel avant d'être subordonné, d'un rapport entre un subordonné et un supérieur. Un Dieu n'est pas notre commandant, n'est pas notre général, notre supérieur hiérarchique. Dieu est d'abord notre créateur, notre Dieu d'amour, qui nous aime et qui fait preuve énormément d'indulgence, il est le Halim par excellence, il est
le magnanime,
voilà, il est le miséricordieux, et donc à partir de là, ces rapports qu'il a avec nous sont encore plus affectueux que les rapports d'une mère avec son enfant. À maintes reprises, le prophète fait allusion quand une fois il rentre avec ses cavaliers dans la ville et qu'un enfant est au milieu du chemin et que sa mère a peur qu'il soit piétiné par les chevaux, elle la court vers lui et elle le prend dans ses bras et elle se sauve pour le mettre à l'abri. Et le prophète s'arrête avec ses compagnons et lui dit « Voyez-vous, pensez-vous possible que cette mère que vous venez de voir, prendre son enfant, jeter son enfant dans le feu, eh bien, ils diront non, impossible. Elle a même risqué sa vie pour le sortir du danger qu'il était en train de subir à l'instant. Et donc, le prophète, eh bien, il dira donc à ce moment-là que Dieu est encore plus miséricordieux avec nous, ses serviteurs, que l'est cette mère avec son enfant. Donc, ça montre bien, déjà, c'est le message que je transmets à mes co-religionnaires, qui sont parfois, on va dire, très affalés, dans un état psychologique extrêmement... parce qu'ils pensent avoir commis un crime vis-à-vis de Dieu. Alors, il y a différentes... on vient se confesser parfois même au téléphone. Mais bon, j'ai quand même l'avantage, c'est que je ne connais pas la personne qui vient se confesser. Donc, je ne peux pas me rappeler de lui ou de le croiser.
Faites des consultations au téléphone, voilà, si je puis dire.
Tout à fait. Ça évite ou ça permet à chacun de pouvoir se libérer, dire ce qu'il a au fond de lui-même sans risquer d'être dénoncé ou d'être dévoilé.
Ou d'être jugé, tout simplement.
Ou d'être jugé, tout à fait. Donc, moi, mon rôle, ça a toujours été de réconforter, et de rappeler la personne de l'immense miséricorde que Dieu fait preuve et qu'il est, comme le dit dans un hadith divin, le fameux « Ya Abdi » ou « Ya Ibadi »« Law ataytani » si tu me viens avec la terre.
« Oh mon serviteur, adorateur, si tu viens. »
Voilà. C'est Dieu qui parle dans ce hadith divin. Si tu me viens avec autant de péchés que peut porter la terre, eh bien, et que tu me viens repenti, eh bien, je t'accorderai la même terre de miséricorde ou son équivalent en miséricorde. Law ataytani biqurabi al-ardi khataya thumma ataytani la ataytuka biqurabiha maghfira.
Donc, vous l'avez dit là en langue arabe, parce que je précise pour nos amis auditeurs que vous avez fait vos études dans une université syrienne. Vous êtes un fin
à Damas,
un fin arabisant, et c'est que vous traduisez au fur et à mesure toutes vos connaissances en langue arabe pour dans une langue proche des fidèles qui vous écoutent.
Alors,
et qui vous appellent.
Pourquoi je le fais, c'est surtout pour rassurer nos auditeurs et auditrices que tout ce que je tiens comme propos n'émane pas de mes propres passions, de mes propres affabulations. Tout ce que je dis est référencé de manière narrative et qu'il ne s'agit pas d'une propre réflexion moderniste, réformiste ou j'appelle à fonder une nouvelle forme de paradigme d'un islam moderne et contemporain qui pourrait s'adapter à la réalité occidentale. Non, il ne s'agit pas de faire ça. Il s'agit de revenir aux sources même de notre révélation, dans lequel il est clair que ce paradigme est la visée de la foi, la visée de notre révélation, et que finalement, c'est dans ce contexte apaisé que nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle, dans ce monde occidental qui n'est pas du tout, pour la plupart d'entre nous chercheurs intellectuels et cadres musulmans ou religieux en général, ne sommes pas influencés par un environnement socio-politique et financier, etc. Et donc nous avons cette capacité d'avoir une approche beaucoup plus apaisée et qui nous permet d'aboutir à cette compréhension beaucoup plus apaisée du rapport que l'on a avec autrui et du rapport que l'on a avec Dieu. Et si l'on, c'est une chance pour nous. C'est une chance pour la première fois à travers les millénaires, les centaines d'années ou les siècles qui nous ont précédés, nous avons pour la première fois un contexte favorable à une compréhension beaucoup plus posée et donc beaucoup plus objective. Et moins subjective et moins orientée par tel ou tel calife, tel et tel courant politico intellectuels que nous proposaient les Seljoukides, les Fatimides, les Mourabitines, etc., etc.
Oui, c'est que le ciel est plus clément au-dessus de notre tête, c'est que nous avons, au moins en France et en Occident, cet acquis des Lumières qui consiste à ne pas tout ramener exclusivement et uniquement à des approches religieuses, mais à une approche pour la spiritualité qui est respecter, mais une approche plutôt rationnelle et de faire en sorte que les êtres humains puissent vivre en association politique sans imposer à autrui sa vision du monde.
En effet, c'est exactement ça. Il faut accepter la diversité parce que chacun a des outils de compréhension qui ne sont pas les mêmes que son voisin. Et donc, à partir de là, il faut justement accepter cette diversité qui est pour moi un enrichissement. Si tout le monde pensait de la même manière, il est où le défi de la tolérance? Il est où le défi de s'accepter?
Même au-delà de la tolérance, parce que on attribue à Claudel d'avoir repris l'idée de chez Peggy que la tolérance, il y a des maisons pour cela. Il y a une exigence d'amour, de respect, de reconnaissance, de prise en compte de l'intérêt d'autrui, de sollicitude. Et là, Abdelali Mamoun, quand je vous écoute, vous dites qu'il suffit simplement de dépoussiérer le patrimoine spirituel et religieux islamique, d'avoir une lecture réactualisée pour retrouver ça comme un élément qui aide les croyants musulmans, hommes et femmes, à se sentir à la fois à l'aise, avec une conscience apaisée, dans leur environnement national.
Tout à fait. Avoir la fierté à la fois d'être français, si on est en France par exemple, et à la fois d'être de confession musulmane. Et l'un n'empêche pas l'autre. Aujourd'hui, on veut nous imposer un diktat qui consiste à être obligé de choisir entre l'un ou l'autre. Être français, c'est forcément être mécréant, traître de ses convictions, traître de ses des membres de sa communauté, et que la Oumma islamia, qu'on appelle donc la communauté des croyants que nous sommes, nous impose l'exclusivité de ne pouvoir faire partie d'autre chose que de cette seule composante qui est la communauté des croyants, et que nous ne pouvons pas faire partie d'une communauté qui s'appelle la communauté nationale. Et je parle bien de communauté que je ne traduis pas par umma. Umma, j'ai cherché longtemps un mot qui pourrait traduire ce mot-là. J'ai peut-être un mot que dans lequel j'ai innové, parce qu'on parle souvent d'innovation ou plutôt de...
Mais votre innovation est louable, elle n'est pas blâmable.
J'ai pensé à la matrie.
Ben oui,
la matrie, c'est le féminin de patrie. Une patrie garantit mes besoins matériels, comme le ferait un père qui irait travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants. Et la mère qui, elle, comble ses enfants de leurs besoins affectifs et spirituels. La matrie, pour moi, est l'épouse de la patrie, qui donc, l'une associée à l'autre, me permet de combler tous mes besoins, à la fois physiques, la patrie l'assure, hein, en me comblant des besoins en emploi, travail, salaire,
ce sont
en
les
logement,
dimensions,
etc.
Sociales
et matérielles. Et l'autre, ce qui est la Oumma, ma matrie, la communauté de croyants, qui va, elle, me combler dans mes besoins spirituels et affectifs. Et je dirais même...
Moraux.
Moraux, tout à fait.
Abdelali Mamoun, certains ajoutent que la patrie est assujettie forcément à la terre, à une géographie, à une région du monde, et que la matrie transcende ces clivages terrestres. C'est un peu, si nous devions prendre l'exemple de l'Église catholique, les citoyens français catholiques ont une allégeance à la nation sur le plan politique et social, et ils ont aussi une allégeance à l'Église universelle, sur le plan moral et spirituel.
Et on ne pose jamais la question d'une soi-disant rivalité entre ces deux adhésions et ces deux allégeances. L'un n'empêche pas l'autre, il n'y a pas contradiction entre les deux. Entre à la fois être patriote qui aime son pays, qui défendrait corps et âme l'intégrité territoriale et l'intégrité de sa nation, et à la fois le fait d'être un croyant, quelqu'un qui adhère à des convictions et qui, pourquoi pas, militerait pour défendre la noblesse, le caractère honorifique et même constructif de ses convictions et de l'apport qu'il peut avoir dans la société dans laquelle on vit. Et c'est pour moi une richesse qui apporte une diversité dans la société qui ne peut être que louable, parce qu'elle vient s'associer avec énormément d'autres richesses intellectuelles et philosophiques.
Alors, cette approche comparatiste, en passant par le détour de l'Église catholique, aide à expliquer la notion de patrie et de matrie. Abdelali Mamoun, poursuivons ensemble, quelles sont ces questions? Un exemple, puisque les auditeurs et auditrices sont anonymes, on n'a que le prénom parfois. Ils vous donnent le prénom ou pas, ou même pas?
Si, ils me donnent souvent le prénom, parce que j'aime bien m'adresser avec eux. Parce que souvent déjà, eux commencent par me tutoyer. Pourquoi? Parce que en arabe, la notion de vouvoiement n'existe presque pas. Ça existe quand même un petit peu, mais
elle est devenue
moins
récente.
Ouais.
Copions le modèle français quand on s'adresse à une...
On dit « hadratkom » ou « entum ». Voilà. « Siadatkom », etc.
Votre seigneurie, votre présence, voilà. etc. Et alors, racontez-nous simplement un exemple, un ou deux exemples qui viennent comme ça à l'esprit, puisque vous en recevez beaucoup.
Oui, en effet, des cas même très, très compliqués. Des personnes, par exemple, qui ont une attirance sexuelle différente de la norme. Par exemple, des homosexuels musulmans qui me disent « Est-ce que j'ai le droit au salut? Est-ce que j'ai le droit à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal ?» Alors, n'importe quel autre imam...
La miséricorde de Dieu.
De Dieu, voilà. Effectivement, j'ai tendance à me laisser emporter par les mots arabes. Mais c'est vrai qu'au sein de notre composante, ça rassure. C'est comme ça. Si vous n'utilisez que des mots français... Tout de suite, ça crée la suspicion. On dit, comment ça se fait que ce monsieur, il dit que des mots en français? Voilà. Parce qu'on est obligé aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est qu'on est obligé de parler avec des pincettes et de prendre en compte la susceptibilité, le caractère encore très archaïque de notre conception de l'islam chez les musulmans, qui est pour eux d'abord une religion arabe, pour les arabes.
Et pourtant, l'élément arabe est minoritaire dans le monde islamique, et les langues véhiculaires de la pensée théologique, philosophique dans l'islam n'est pas que par l'arabe, même si pendant des siècles, l'arabe était aussi une langue centrale. Il y a le persan, il y a l'ourdou, il y a le turc, il y a le swahili, il y a le gujarati, il y a l'hindi, et maintenant, et heureusement, il y a le français. Donc je peux comprendre que pour des raisons psychologiques, il y a lieu de rassurer, mais vous avez aussi cette idée de les ramener petit à petit à utiliser leur langue nationale.
Tout à fait. Quand je choisis même des vocabulaires contemporains, que par exemple j'ai essayé d'adopter ou de faire adopter à mes co-religionnaires dans mon livre que j'ai écrit en 2017 aux éditions Le Cerf, qui s'intitule « L'islam contre le radicalisme », je ne fais que de l'apophatisme,
c'est-à-dire vous dites ce qui n'est pas au lieu de dire ce qu'il est.
Voilà.
Et donc l'islam n'est pas pour le radicalisme.
Pour que mes co-religionnaires n'aient pas le sentiment que l'islam est subordonné à toutes ces valeurs contemporaines, je suis obligé d'utiliser cette méthodologie
littéraire.
Il n'est
pas subordonné suite à une injonction, parce qu'on est l'islam ou les musulmans sont sommés d'eux, mais en réalité, il suffit simplement de dépoussiérer, d'enlever toutes les scories pour trouver dans l'essence même. Voilà, c'était ça votre idée.
C'était exactement ça. Quand on dit l'islam est laïque, l'islam est démocrate, l'islam est républicain, l'islam est compatible avec la liberté, l'égalité, la fraternité, l'ensemble des valeurs que l'on retrouve chez Rousseau dans le contrat social ou chez Montesquieu ou Voltaire ou d'autres ou bien d'autres intellectuels à l'échelle internationale, eh bien, on est obligé aujourd'hui d'aller avec des pincettes pour que les musulmans évoluent progressivement vers cette adoption, cette réconciliation avec tous ces penseurs et toute cette sagesse qui nous est parvenue d'ailleurs que dans nos textes arabes et coraniques. Et donc à partir de là, si l'on réconcilie ces gens-là avec cela, avec ces valeurs-là, eh bien il nous sera possible ensuite d'apaiser les esprits et de leur permettre de s'émanciper dans la société sans aucune crispation. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de musulmans ne se sentent pas intégrés dans l'espace républicain. Et même, ils pensent qu'ils n'ont pas le droit à cela. Parce qu'aujourd'hui, il y a une ligne éditoriale dans le discours religieux, dans les mosquées, et je ne dis pas simplement dans les mosquées qui se trouvent dans le monde arabe et qui sont loin de nos provinces et de nos campagnes françaises, mais bien ici, je parle bien dans nos chairs, et nos mimbars français, où des imams vont créer véritablement une forme de dichotomie, de communautarisme, de repli communautaire, dans lequel ils vont mettre les musulmans dans un cocon où tous les droits ne sont acquis que pour eux. Et quand, par exemple, ils font des prêches, des prières, des implorations, où est-ce qu'ils disent Allahumma ansur al-Islam wal-Muslimin, oh Dieu, donne la gloire à l'islam et aux musulmans. Mais c'est quand même aujourd'hui une aberration que d'entendre ce genre d'imploration, d'invocation dans les mosquées. Et en France en particulier, déjà même dans le monde arabe, ça ne devrait plus être le cas. Quand vous entendez un prêtre ou même un rabbin dans une église ou dans une synagogue prêcher la paix pour l'humanité, prêcher le bien pour toute l'humanité, souhaiter l'abondance, la richesse, la réussite, la gloire et toutes ces choses qui sont source de bonheur pour l'humanité, et j'ai dit bien pour toute l'humanité et pas simplement pour la communauté des croyants chrétiens, eh bien ça montre bien que nous avons un grand retard dans notre manière d'ériger notre discours religieux, et donc il est important de corriger cette ligne éditoriale déjà pour commencer chez nos imams. Donc il doit y avoir ce que j'appelle un conseil de l'ordre des imams de France qui doit se déplacer pour enseigner et recadrer les imams sur leur manière d'interpeller leurs co-religionnaires, parce que c'est fondamental pour une vraie intégration en France. Car il est bien de protéger les corps en imposant des règles sécuritaires, ce que font nos préfectures vis-à-vis des mosquées qui se construisent. Mais s'ils ne protègent pas la conscience des esprits et des gens qui fréquentent ces mosquées-là, à quoi bon ouvrir un lieu de culte si nous n'avons pas garanti la protection de leur conscience ?
sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et nous sommes avec l'imam Abdelali Mamoun qui nous parle de valeurs républicaines, de valeurs universelles, ou à tout le moins universalisables, et qui sont puisées au cœur même de la tradition religieuse islamique pour peu qu'elles soient débarrassées de toutes ces scories et qu'elles soient revisitées. Cette notion de coiffe, donc du Conseil de l'Ordre des Imams de France, est une notion de la plus haute importance et qu'il faut mettre sur place, bien entendu, et former les formateurs et avoir des imams avec leur double formation cultuelle et culturelle pour s'insérer harmonieusement dans le paysage national à tout point de vue. Pour les minutes qui nous restent, si vous voulez bien, Abdelali Mamoun, alors, pour certaines orientations sexuelles, vous apaisez les auditeurs et auditrices. Alors, à l'issue de l'entretien, ils partent rassérénés ou ils vous remercient, ils vous rappellent comment les choses se présentent-elles ?
Pas forcément. Ils peuvent très bien se satisfaire de la conversation qui est des fois plus ou moins longue. Hein, qu'elle peut durer parfois plusieurs dizaines de minutes avant de pouvoir apaiser. Parce que ce sont d'abord des personnes qui ont besoin d'être écoutées. Avant d'être des personnes qui ont besoin d'écouter, elles ont besoin d'être écoutées, d'être compris dans leur souffrance parce qu'elles souffrent profondément, parce que, là encore une fois, ce sont des imams, ce sont des pseudo-théologiens qui tiennent là encore un discours très archaïque, très arriéré sur le fait que Dieu est d'abord un Dieu vengeur, un Dieu
torsionnaire
qui va châtier tous les... Mais non, ce sont les détracteurs, ceux qui sont de mauvaise foi, ceux qui sont injustes, qui feront l'objet d'un châtiment divin. Mais Dieu, quand il crée chez toi une réalité qui est innée au fond de toi-même, et on est obligé de faire avec et de dire à cette personne-là, eh bien écoute, fais au mieux, essaye d'aller dans le sens de ce qui pourrait contribuer à rétablir un rapport, ou plutôt une réalité sexuelle de ta personne, qui soit en harmonie avec ce qui a été révélé dans le Coran, mais de la manière la plus douce et de la manière la plus... Et ça, Dieu ne peut pas être indifférent à cela. Moi, je ne crois pas un Dieu injuste qui éprouverait ces gens, des créatures de cette manière-là, en leur disant « C'est vrai, je fais de toi un homme, mais tout au fond de toi-même, tu es une femme, mais tu dois malgré tout rester un homme, parce que tu es un homme physiquement. Et pourquoi ?»
Bien.
Pourquoi donc je suis dans une démarche de rassurer la personne, de lui dire que Dieu n'est pas, d'abord c'est un Dieu de miséricorde et de justice. Il ne peut pas t'accabler alors que c'est lui qui est à l'origine de ce qui t'arrive.
Bien, Abdelali Mamoun, vous officiez sur une radio dite communautaire, si je peux utiliser le terme, et il m'est arrivé par moment de vous écouter, et j'ai entendu une des auditrices vous poser la question sur... est-ce qu'il lui est licite, on est encore dans cette optique, de faire des ablutions sur du rouge aux ongles ou du vernis à ongles? Alors, est-ce que ce genre de questions obère votre énergie? Et on est arrivé à cette obsession de la norme religieuse au point où on vous fait perdre votre temps par ces interpellations.
C'est ce genre de détail. En effet, la priorité, c'est d'abord du rapport que l'homme il a avec Dieu, et que ces futilités qui relèvent de détails de la pratique religieuse, vous pensez bien que Allah Azza wa Jal, que Dieu le glorifié, le majestueux, ne va pas se rabaisser à prendre en considération et va même remettre en cause la validité de tout un effort accompli, un effort spirituel qu'accomplit son serviteur sous prétexte que il a au bout de ses doigts ce qu'on appelle des obstacles qui feraient abstraction entre la peau, la personne, l'ongle de la personne et l'eau des ablutions. Je ne pense pas que Dieu en est à ce niveau-là. Je pense que ce qui est le plus important, c'est d'abord l'intention. Et qu'à partir du moment où quelque chose qui est aimé, même ces docteurs de la foi qu'on interpelle, quand on leur dit « mais si quelqu'un met du vernis qui est lié à un traitement pour empêcher, par exemple, de se ronger », vous savez, il y a aujourd'hui des vernis amers pour empêcher les personnes, ou on va dire décourager les personnes à se ronger les ongles, est-ce qu'il peut faire les ablutions ? Ah oui, là il peut. Ou quand il a un pansement au doigt, il peut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il s'agit d'un traitement médical ou lié à un problème de santé, il peut faire l'exception à la règle. Mais quand il s'agit de s'embellir ou d'être dans une démarche de vouloir être bien dans sa peau, parce qu'il y a des femmes qui se sentent bien dans leur peau, en mettant ces vernis, eh bien là, à ce moment-là, on viendrait leur dire non, c'est pas possible.
Oui.
Et de quel droit ?
Cher Abdelali Mamoun, on arrive au terme de notre émission. Si je vous ai cité un exemple, c'est pour montrer l'aberration ou de l'obsession de la norme religieuse. Et donc votre travail est considérable quand il s'agit de prendre en charge cette thérapie de l'âme et de rasséréner les auditeurs.
De remettre en lien l'homme avec Dieu et non pas l'homme avec les juristes qui ont spolié l'islam. Il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. L'islam est à Dieu et que à Dieu.
Et rendre
à César ce qui est à César.
Très bien. C'était question d'islam et nous avons reçu aujourd'hui l'imam Abdelali Mamoun pour nous parler encore une fois des valeurs de la République et de l'élévation spirituelle dans la tradition religieuse islamique. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Olivier Dupré et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin.